revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 17, année 2016, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
C'est le grand retour de Nico.
Eh oui, j'ai enfin du temps.
Alors Manu, parle-nous du petit sommaire de la semaine.
Oui, tranquillou, on voit que c'était des vacances, hein. Je pense que c'est en lien. Donc les suites bureautiques, un petit truc qui fait plaisir sur la Adopi, la loi numérique, le mouvement perpétuel de Nuit Debout, le format ODF avec les administrations et la RGI, et finalement un petit truc au Sénat sur l'ouverture des codes sources des administrations.
Le MagIT OS, poste de travail, suite bureautique, oser les alternatives. Un article de Gêne de Maître. Donc c'est un article troll.
Ah, tu veux dire qu'il y a un point d'interrogation ?
Non, effectivement, il faut vraiment aller sur les OS ou les systèmes alternatifs ou les logiciels alternatifs. Donc là, ça fait le tour, en particulier d'un point de vue de la DSI, donc la Direction des Systèmes Informatiques. Comment on peut faire des choix pour se passer de Office, pour se passer de Windows, pour se passer de Photoshop, etc. Et donc, ils donnent des alternatives qui ont l'air de plutôt très bien marcher, qui marchent très bien d'ailleurs, que c'est super, hein, parce que du coup, il y a beaucoup moins de bordel de licence, c'est plus simple à gérer. Généralement, c'est plus performant, c'est plus pérenne, donc il n'y a que des avantages à utiliser ce genre d'alternatives.
Alors, ça fait un tour d'horizon, c'est assez rapide, hein, c'est pas un long article. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est très pragmatique. C'est vraiment pas de prise de tête sur la logique, la théorie, quoi que ce soit. Non, non, c'est juste, vous voulez pas vous prendre la tête. Sachez qu'il y a des trucs très séduisants, très agréables, qui fonctionnent bien. Donc, c'est un article qui est sympathique pour ça.
Ouais, l'auteur fait mention en gros de DSI qui ferait le choix du libre notamment parce qu'ils en ont ras-le-bol de changer ISO fois de version, de gérer les licences compliquées, de payer, etc. Mais c'est même pas tant qu'une question de coût qu'une question de bordel à gérer. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'ordre du souhait ? En tout cas, lui le présente en disant qu'il y a une minorité de DSI qui commence à changer là-dessus et on espère que ça va embrayer. Ce serait une très bonne surprise. Télérama, Adopi supprimé en 2022. Je ne m'attendais pas à ce que l'amendement passe. Un article d'Olivier Tesquet.
Alors c'est quoi, c'est le coup du rideau ?
Ben non, même pas, mais là c'est un peu un what the fuck complet qui s'est passé en fait à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc il y avait Isabelle Attard qui a proposé un amendement en fait pour juste tuer l'Adopi. Donc elle avait...
Wow.
Ouais, elle avait juste posé ça en disant on va juste rigoler un coup, on va se marrer 5 minutes et puis après ça va être vite fini. Et en fait ils étaient que 7 à procéder au vote, dont un qui s'est abstenu.
Il était 22h et quelques. Hein.
22h et quelques, personne dans l'hémicycle, et ben c'est passé à 4 voix contre 3, et donc l'Adopi va normalement mourir en 2022.
Alors, effectivement, parce qu'en gros, on pourrait s'attendre à ce qu'ils reviennent là-dessus, ils disent non, bah attendez, vous foutez de nous, il n'y avait que 6 votants, c'est ridicule, donc ça s'est vraiment passé à pas grand monde, et donc si le Parlement entier devait voter, peut-être que ce serait pas le résultat. Mais non, il semblerait que ça va être bon.
Donc, ils étaient 8, il y avait Patrick Bloch qui pourtant est très pertinent sur le libre et toutes ces choses-là, mais il est PS, le PS est au pouvoir, le PS veut garder l'Adopi, donc il s'est tiré pour ne pas participer à ça et pour pas se mouiller. Le président de séance a essayé de déléguer le truc pour essayer de trouver du monde, rameuter des gens dans les couloirs, mais probablement il était trop tard, il n'y a plus personne, et ça a été voté, et maintenant c'est dans les mains du Sénat.
Voilà, puis le Sénat normalement devrait conforter cette position-là. Il aimerait bien se mettre ça dans l'escarcelle, donc il va sûrement laisser passer ça, donc ça risque de passer sans trop de problèmes.
Moi j'ai quand même des doutes, hein. C'est ce que dit Isabelle Attard, mais en même temps, l'Adopi ça a quand même été créé par Sarkozy, par un gouvernement de droite. Les lobbies voilà, en question sont quand même très forts et des oreilles partout, on les écoute beaucoup, donc moi je n'y crois pas trop.
Alors petit détail, pourquoi 2022 ?
2022 en fait c'est la date d'expiration du dernier mandat d'une personne de chez Adopi, donc potentiellement ça peut mourir avant si on aide des gens à partir.
S'ils partent demain, hein,
ou s'ils partent demain, tout à fait.
Next Impact, loi numérique, les sénateurs grillent la priorité au logiciel libre, un article de Marc Reiss.
Voilà, du coup, c'est moins marrant pour nous, hein, mais la priorité du logiciel libre, c'est quelque chose qui avait beaucoup été demandé sur la loi numérique. Le forum avait été très très positif et très en faveur de cette demande.
Donc, priorité au logiciel libre dans les administrations, notamment par les marchés publics. Voilà. Quelque chose de vraiment conséquent, et d'autres pays l'ont déjà fait.
L'Italie, par exemple, l'a fait, la Grande-Bretagne aussi. Voilà, mais la France veut pas du tout se mouiller, au contraire. Ils ont déposé amendement sur amendement pour complètement vidé de son sens la proposition de loi. Et aujourd'hui, c'est juste une espèce de pseudo-orientation, un espèce de conseil, on sait même pas trop en fait.
Ouais, c'est bien le logiciel libre.
Mais voilà.
L'intention est là. Alors ce que je remarque, c'est que c'est un combat de l'April, hein, clairement, au premier poste là-dessus. Ça se passe pas super bien là pour le coup, en ce moment. Mais les débats sont intéressants et les idées qui ont l'air de fuser chez des gens qui d'habitude ne touchent pas trop à la technique, eh bien ça a l'air d'être des idées qui deviennent pointues et intéressantes.
C'est ce que dit Frédéric Couchet, notre délégué général général qui est cité dans l'article et qui fait remarquer qu'effectivement il y a eu des débats de très bonne qualité et de gens de bords différents, y compris les républicains qui traditionnellement sont contre le logiciel libre, hein, le côté très conservateur. Et effectivement, si on se place dans une perspective de long terme, il y a des années de ça, personne n'en entendait parler, les sujets, les débats étaient complètement nuls et à côté de la plaque. Et aujourd'hui, ça avance, et même si on a encore pris un échec aujourd'hui, le sujet progresse, et Frédéric Couchet y croit et pense qu'un jour ou l'autre, ça passera, c'est le sens de l'histoire, dit-il. Libération, grâce au numérique, le mouvement perpétuel, un article d'Amel Guiton.
Donc ça revient sur le mouvement Nuit Debout, en fait, bah, qui doit faire des choix, en particulier aussi en, en version numérique.
Pour sa communication, les voilà. Sites web et la communication en, entre les gens qui participent.
Voilà, donc les applications mobiles à utiliser, les sites web à monter, les systèmes de sondage, de gestion participative ou autre. Et donc en particulier, ils se sont posés la question de est-ce qu'ils devaient utiliser du logiciel libre ou pas. Donc du coup, ils en utilisent malheureusement pas encore partout. Hein. Par exemple, ils utilisent Telegram ou WhatsApp encore pour communiquer, qui ne sont pas du logiciel libre.
Ils utilisent aussi Facebook. Hein. Clairement,
ils utilisent aussi Facebook, mais il y a des wikis, il y a des pads, il y a pas mal de choses comme ça qui ont été mis en place quand même.
Voilà, sur WhatsApp, il faut bien se dire aussi qu'on tombe quand même dans une lacune du logiciel libre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des logiciels de voix sur IP accessibles au grand public, en libre,
il n'y en a pas des masses.
Voilà, il n'y a pas grand-chose.
Il y a Firefox, hello, voyons, il est super hein.
Ah mais tu l'as malheureusement pas sur mobile et pas sur des grosses communautés comme ça. Enfin, WhatsApp, c'est quand même un petit million ou 2 millions de personnes que tu peux rejoindre assez rapidement. C'est vrai qu'il y a des gros manques là-dessus. Il y a Signal, par exemple, une application qui existe, qui est en logiciel libre, mais qui est malheureusement pas aussi utilisé que WhatsApp, donc ils ne peuvent pas l'utiliser aujourd'hui, sinon ils se couperaient de leur communauté. Quoi.
Alors ce que je remarque, que j'aime bien moi, c'est que d'un point de vue théorique, d'un point de vue des intentions, les gens sont là pour faire du logiciel libre, et ils en veulent, hein, clairement, et ils se rendent compte qu'il y a une forme d'hypocrisie et de problème à utiliser des logiciels propriétaires, donc ça va dans le bon sens, mais à un moment donné, ils acceptent hein, que on va publier des trucs sur Facebook, on va s'organiser sur des hangouts, des choses comme ça, qui sont propriétaires malheureusement.
Bah il faut bien aller chercher les gens là où ils sont, hein, et malheureusement aujourd'hui, ils sont pas trop pas souvent sur le logiciel libre.
Voilà, on avait vu un article il y a 15 jours, une semaine ou 15 jours, hein, là-dessus, et sur le fait qu'effectivement, dans les gens qui travaillent là-dessus et sur ces outils-là, ils sont plutôt libristes. Et donc, c'est pas mal, on peut pas attendre non plus des gens qui changent toutes leurs habitudes et ce genre de choses. Dans ce mouvement, il y a des gens qui parlent de tout. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir un peu de pragmatisme et aussi d'aller savoir chercher les gens là où ils sont. S'il y a un reproche qu'on peut faire aux libristes, parfois, c'est un peu le côté intransigeant et du coup, qui peut être complètement repoussant pour des gens qui sont pas déjà sensibilisés. Et donc, voilà, on espère que ça ira dans le bon sens, et on ne peut que féliciter les gens qui s'impliquent là-dedans et qui poussent le libre. ZDNet bureautique, le format ODF recommandé dans les administrations, un article de Thierry Noisette.
Grande victoire.
Ah bah ça c'est une très très grande victoire, hein. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, on l'a pris, il avait beaucoup milité sur ce sujet-là depuis même le RGI, la version 1.
Et pas que, parce que c'était carrément un scandale mondial, c'est-à-dire que Microsoft avait fait du lobbying au niveau de plein d'institutions mondiales pour que les normes acceptent les formats de Microsoft.
Voilà, et donc le RGI version 1 faisait la part belle à Microsoft.
Alors, RGI, référentiel général d'interopérabilité. C'est le document de référence de l'administration sur quels sont les formats qu'il faut utiliser préférentiellement, on le rappelle. On en avait beaucoup parlé dans la revue de presse il y a 6 mois à peu près.
Voilà, et là, la V2 est sortie, et enfin, ils ont reconnu que OXML, donc la norme de Microsoft, ça marchait pas bien, c'était pas très interopérable, c'était compliqué, c'était pas une vraie norme, et donc ils l'ont mis de côté. Donc,
sous surveillance.
Voilà, sous surveillance, donc, c'est pas encore dégagé.
Ça veut dire que c'est pas dégagé, parce que clairement, il y a tellement de gens qui utilisent ça, et puis on veut pas forcément se mettre à dos avec Microsoft, et donc quelque part, il y a le fait de le mettre de côté.
Alors ce qu'on a ici, c'est la décision, donc ça veut dire que ça a été implémenté. On en avait beaucoup parlé puisque c'était à l'époque où c'était en discussion. Il y avait une première version où OXML était carrément dégagé du RGI et sans doute à cause de pression, il avait été réintroduit avec tout ça, mais avec une longue liste de tout ce qui lui était reproché. Et on sentait que c'était une façon de dire, bon ok, on nous a forcé à le mettre, mais maintenant on va vous expliquer pourquoi on l'avait sorti. Et il leur taillait un short assez sévère, voilà le bilan et voilà pourquoi on vous recommande de ne pas l'utiliser.
Petit truc rigolo. Il semblerait que les gars qui ont fait tout ce référentiel pour décrire à chaque fois les formats, les standards qui sont utilisés, ils se réfèrent à Wikipédia.
Oui, effectivement. Donc, en gros, ils prennent les articles de Wikipédia qu'ils doivent considérer comme de qualité. Ils vont les copier dans le RGI et...
Et puis, du coup, ils mettent un lien vers le contenu. Donc, si jamais vous voulez plus de nouveautés ou s'il y a des petites modifications, vous pouvez être plus à jour en allant consulter directement Wikipédia.
Next Impact, au Sénat, nouvelle charge contre l'ouverture des codes sources des administrations, un article de Xavier Berne.
Bon, là, on s'en prend une belle aussi, hein, au passage.
Alors, le sujet, c'est que les administrations françaises, comme les administrations américaines d'ailleurs, de notre point de vue, tout ce qu'elles font en logiciel, elles devraient le faire en diffusant le code source correspondant et en montrant un petit peu ce qui est fait en interne, en ouvrant.
Et oui, c'est payé avec nos impôts quand même.
Voilà. Bah justement, parlant d'impôts, le code source, il y avait une jurisprudence sur le sujet, puisque le code source de la calculatrice des impôts a été publié par le ministère du budget.
Ça, c'était une grosse victoire.
Hein. C'était une grosse victoire qui a été très compliquée à atteindre. Et en fait, on voulait aller un peu plus loin en proposant de le mettre directement dans la loi, profiter de la loi numérique pour faire passer ça dedans. Au début, c'était passé, mais il y a eu quand même beaucoup d'amendements à arriver. Et en fait, ils l'ont un peu vidé en mettant plein de restrictions derrière, sous des motifs de sécurité, de concurrence, enfin, ils ont encore d'innovation, etc. Et aujourd'hui, la communication du code source, ben, ce sera pas la norme. Faudra vraiment aller prouver qu'il n'y a pas de concurrence, pas d'innovation, rien, et donc le code, en fait, est pas intéressant pour avoir le droit d'y avoir accès.
Alors, c'est quand même pas mal de voir que, ben, ils en parlent. Le sujet est sur la table, à un moment donné, voilà, on travaille pour les citoyens, donc les citoyens ont le droit de retrouver ce qu'on fait, de l'étudier, l'analyser, l'utiliser, le modifier et le rediffuser. Il y a une petite infographie qui va avec l'article, qui vient de l'April.
Voilà, c'est une infographie qui explique en particulier pourquoi l'argument sécuritaire ne tient pas quand on parle d'ouverture de code source, puisque le fait d'ouvrir le code source, en fait, au contraire, mettra plus de monde dans la boucle pour vérifier s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de faille, s'il n'y a pas d'erreur, et c'est beaucoup plus efficace qu'au contraire de dire on va le fermer, comme ça personne n'aura accès aux différents problèmes, alors que non, des bons hackers savent très bien trouver les problèmes, alors que si le code est publié, n'importe qui peut aller essayer de les corriger.
Voilà, il y a également l'argument de l'innovation, en disant si on donne accès au code source, tout le monde pour aller nous piquer nos secrets. Ouais. Alors qu'on sait que bah voilà, non, l'innovation prospère très bien, et ces dernières semaines, on a eu pas mal d'articles de gens, notamment on pense Elon Musk, ce milliardaire célèbre qui en fait des caisses et qui a ouvert les brevets qu'il possédait en disant qu'en gros, c'était beaucoup moins efficace de verrouiller que de partager. Et donc toutes ces choses-là, je pense que ces sénateurs-là devraient s'en inspirer.
Nous on espère, et a priori on va continuer de toute façon à aller dans ce sens-là. Il n'y a pas de raison, à un moment donné, il y aura d'autres logiciels qui vont apparaître, on fera des demandes à la CADA, et autre chose, autres outillages, parce que bah, ça n'empêche, les administrations peuvent ouvrir leur code source au cas par cas et de manière moins complète, hein, c'est-à-dire que ça ne va pas être automatique, mais il y a quand même quelque chose.
Voilà, le prochain, ça sera sûrement APB, donc admission post-bac, qui est l'algorithme qui fait l'affectation des étudiants dans les universités, classes préparatoires et autres. Et aujourd'hui, c'est juste un gros truc opaque que personne ne sait comment ça marche, et donc le code source, bah, on espère bien l'obtenir un jour.
Ouais, t'as utilisé le mot-clé, hein, algorithme, parce qu'en fait, on s'en rend compte maintenant, les algorithmes vont diriger notre vie. Et quelque part, dans tous ces sujets d'ouverture de code source, il y a aussi cette problématique-là de savoir comment les lois s'appliquent à nous, les citoyens, et dans plein de circonstances. Donc, tous ces algorithmes, eh bien, on veut les ouvrir, on ne veut pas juste des boîtes noires qui sont loin de nos yeux.
Très bien, on a fait le tour de nos 6 articles. Merci Manu.
Merci Nico.
Merci Luc.
Et à la semaine prochaine.